Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 9e rencontres de l'ARCSI qui ont eu lieu le 13 novembre. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier.
Hello.
Guillaume Lopez.
Hello.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Salut.
Nicolas Ruff.
Grüezi miteinander.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors l'ARCSI, Hervé, c'est une association. Est-ce que tu es membre de cette association?
Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, moi je suis membre de toutes les associations. Donc, j'ai le bonheur d'être aussi membre de l'ARCSI. Alors, ARCSI, qu'est-ce que ça veut dire? Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. Alors, malgré ce titre qui peut faire un peu peur, c'est une association qui est très ouverte, puisque moyennant une demande et un dépôt de dossier, il est tout à fait possible de pouvoir y entrer et y participer, même si l'on n'est pas réserviste, même si c'est la majorité des gens qui sont membres. Donc c'est une association très ancienne en sécurité, mais moi ça fait que quelques années, hein, ça fait pas tellement longtemps que j'y suis membre. Et cette association organise régulièrement une manifestation chaque année. L'année dernière, en fait une année sur deux c'est à Paris, une année sur deux c'est en province. Donc l'année dernière c'était à Toulouse, et donc cette année c'était à Paris.
Tu peux dire que pour rentrer dans l'association, il faut être coopté quand même. Il ne suffit pas de payer sa cotisation.
Oui, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait déposer un dossier. Effectivement, dans ce dossier, il faut avoir des parrains qui vont garantir. Voilà. Bon, c'est un mécanisme assez classique dans d'autres associations du monde de la sécurité. Et donc, c'est pas une association dans laquelle tout le monde peut entrer.
Et ça change quoi par rapport aux autres associations qu'on peut connaître? Qu'est-ce que cette association a en plus et qu'est-ce qui te pousse, t'a poussé ou vous a poussé à faire partie de cette association?
Ouais, clairement, le public n'est pas du tout le même. Bah, toutes les associations que je connais, l'OCIR, l'association STIC, etc., c'est des jeunes, des consultants, des gens qui font de la technique, enfin, au sens reverse, injection SQL. Là, c'est vraiment les réservistes du chiffre de l'armée, quoi. Donc c'est des gens qui transportent des clés rouges, des clés noires d'un certain âge, qui après se sont recyclés dans le civil à des postes de responsabilité. Enfin, c'est plus proche, je connais pas bien le plusif, tu vois, mais je pense que c'est plus proche d'une association professionnelle, on va dire top niveau, peut-être le CESIN, tu vois, une association de RSSI, et avec une très très forte teinte militaire quand même.
Oui, c'est-à-dire que moi, pour participer au CUSIF et au CESIN, je peux vous dire que le public est très différent. À la rigueur, ce qu'on va trouver à la fois à l'ARCSI, au CESIN et au CUSIF, ce sont plutôt quelques fournisseurs qui sont sponsors. Donc là, effectivement, on va les trouver aux trois endroits. Par contre, le côté, je dirais, utilisateur, non, ce n'est pas le même public, hein. Donc, bon, c'est complémentaire, voilà, c'est complémentaire.
Alors, tu parlais d'un dossier pour pouvoir rentrer dans cette association. Alors, en dehors du fait d'être coopté, qu'est-ce qu'il faut amener au dossier?
Quand on parle de chiffres, je veux dire, il y a une composante cryptologique qui est assez importante. Et il faut quand même, on va dire, avoir des connaissances de base en matière de chiffrement, de cryptologie. Il y a même l'adhésion n'est pas réservée aux Français. Il y a des membres honorifiques qui sont anglais ou américains parce que ils sont propriétaires d'un musée de la cryptologie, par exemple, où ils collectionnent des machines anciennes, où ils ont considérablement fait avancer l'état de la science cryptologique. Donc voilà, je pense que c'est un peu le point différenciant de cette association. C'est pas une association non plus d'universitaires. Il n'y a pas que des profs de maths. Mais c'est un peu le point commun entre tous les membres.
Et le mot réserviste dans leur nom, pourquoi?
Oh, parce que ils se tiennent à disposition de l'État au cas où il y a besoin de revenir, je sais pas, dans le cadre de sensibilisation, de formation ou même d'incidents de grande ampleur.
Alors cette année, quelle est-elle la thématique ?
Alors cette année, c'était renseignement et protection des libertés publiques, donc un thème d'actualité et à la fois assez casse-gueule aussi. Hein. Donc la plupart des interventions traitaient de vie privée, surveillance de masse, protection des données personnelles, etc. Quoi. Avec quand même des intervenants, on peut dire, d'un très bon niveau. De manière assez surprenante, par exemple, Jérémy Zimmermann était là, de la Quadrature du Net. Donc lui, je pense qu'il n'est pas réserviste de l'armée. Enfin, je pense qu'il est.
Non, non, mais il
n'est
pas membre de l'association, il était invité.
Oui, oui, mais je veux dire, il détonnait complètement par rapport à...
Non, non, pas du tout. Il détonnait pas du tout. Ce qui est justement intéressant, c'est qu'avec des mots très différents, avec un passé, un historique, un âge différent, il y avait quand même des vraies convergences. Lorsque on écoute ce que disait le général Jean-Louis Devine en introduction, il y a quand même des choses qui étaient communes avec ce qu'a dit Zimmermann l'après-midi. Donc c'est intéressant, c'est là où des gens avec des profils très différents arrivent finalement à des conclusions pareilles sur le fait que on est complètement tombé dans un délire absolu.
Et moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé de commun dans tous les discours, c'est qu'il y avait quand même un certain consensus, mais que je qualifierais plutôt de conformisme. Je trouve que les gens avançaient avec des idées, ils partaient de présupposés en disant, bien entendu, l'utilisateur veut être propriétaire de ses données, donc, et après tout le discours était construit là-dessus. Et effectivement, il y avait un certain nombre de points communs entre le point de vue de la juriste, le point de vue de Jérémy Zimmermann et autres, mais qui partaient finalement sur des bases sur lesquelles personne ne discutait. Et... Je sais pas ce que tu en as pensé, Hervé. Enfin, il faut dire qu'on était quatre à cette conférence. Jeff, Johan, Hervé et moi y étions, donc on a assisté au débat en première ligne. Et je pense qu'on pourrait confronter un peu nos points de vue sur ce qui s'est dit et la pertinence du discours.
Et peut-être juste avant que Hervé nous donne son propos, est-ce que justement c'était des conférences tout au long ? Est-ce que il y a eu des tables rondes ? Est-ce qu'il y avait des débats ? Comment ça se passait ?
Alors sur le format de l'événement, déjà ça se passe au Val-de-Grâce, donc c'est quand même un cadre assez prestigieux, on va dire.
Dans un musée en fait, hein, ça se passait dans un musée. La salle de conférence était une magnifique bibliothèque. C'est un cadre très particulier où d'habitude il se passe jamais de conférence.
Voilà, donc c'est sur la journée, il y a des pauses, café, repas, enfin tout se passe à l'intérieur, on n'a pas besoin de sortir. Et le format des confs, c'est essentiellement, c'était que des présentations avec slides et questions-réponses avec l'assistance à la fin et un modérateur qui est chargé de faire respecter le temps et d'éviter les dérives.
Oui, alors en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas de transparent. Hein. Il y avait pas mal de... Ah oui, il y avait des conférences où il n'y avait pas de transparent. Tu veux que je te donne ?
Avec un seul frac.
Alors, par exemple, Jean-Louis Devine, il n'a passé que 3 transparents, ce qui n'est pas vraiment passé des transparents. Bon, sachant que c'est des transparents suffisamment rigolos pour que, pour montrer que j'étais vivant, je les ai retweetés. Donc, ils valent leur pesant de cacahuète, puisqu'il y avait la photo d'un extrait d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché à l'époque de la DCSSI. Où ils avaient oublié de laisser le texte qui indiquait que le système de chiffrement avait été changé pour intégrer la porte dérobée imposée par l'administration américaine. Et puis l'autre, c'est un document, je suis du 19e siècle, si je me souviens bien, dans lequel, c'est la ville de Rochefort, c'est dans mon souvenir, on voyait à la place de liberté, égalité, fraternité, il y avait liberté, égalité, surveillance. Enfin, vous trouverez la photo sur Twitter, c'est très rigolo. Okay.
Alors, quelles sont les conférences qui vous ont marqué ?
Ben déjà, il y a une conférence compliquée que j'ai eu du mal à suivre, mais bon, comme je connaissais pas bien, j'ai beaucoup aimé. C'est celle de Renaud Sirdet du CEA, puisque lui, il a fait une conférence d'introduction à la cryptographie homomorphe. Bon, alors moi, je suis pas un spécialiste, donc je connaissais pas la cryptographie homomorphe, mais j'ai trouvé qu'il a bien expliqué d'une manière didactique. Bon, même si c'est très vite compliqué, parce qu'il faut ajouter du bruit, tout ça. Mais ça, c'était vraiment rigolo et intéressant. Et même si c'est quelque chose qui me semble pas tout à fait opérationnel aujourd'hui, c'est vrai que pour résoudre les problèmes de vie privée dans le futur, ça pourrait être une des solutions. L'idée, c'est que avec le chiffrement homomorphe, on va avoir la possibilité qu'un serveur fasse un travail sans avoir la mémoire des données sur lesquelles il a fait ce travail. Donc, moi, j'ai trouvé ça comme solution assez rigolo.
Ouais, enfin, moi, intellectuellement, je trouve ça intéressant, le chiffrement homomorphe, mais concrètement, je vois pas d'application pratique. Enfin, je veux dire,
pas à court terme.
Mais non, mais même à long terme.
Ah, soit, je suis pas tout à fait d'accord.
Ben, c'est quoi l'intérêt d'aller faire le traitement sur un serveur distant si la cryptographie induit ne serait-ce qu'un facteur 2 sur le coût de traitement? C'est quoi l'intérêt de faire ça par rapport à avoir un serveur chez
le
toi
fait que, ben, le fait que tu as la garantie... D'abord, c'est un traitement que tu peux pas faire sur ta tablette, hein, sinon tu le ferais effectivement sur ta tablette. Et c'est un traitement qui demande typiquement l'introduction d'algorithmes faisant appel, je sais pas moi, du big data, je ne sais quoi. Et l'intérêt, c'est que les données qui te sont très privées, que tu as saisies sur ta tablette, ces données ne sont pas conservées par le serveur. Et ne sont pas connus du serveur. Et donc, finalement, tu peux donner des choses intimes sur ta santé. Ces choses-là ne restent dans la mémoire de personne parce qu'elles n'ont jamais été dans la mémoire de personne. Et pourtant, tu as soumis tes données à quelque chose qui t'a donné le résultat que tu attendais.
Oui, alors, a priori, c'est sûrement applicable directement à tout ce qui est anonymisation. Et c'est sûrement un très bon concept applicable directement. Et comme c'est irréversible, c'est pas de la pseudonymisation, mais bien de l'anonymisation.
Tout à fait.
Et ça a un intérêt, ça?
Ah ben oui, oui.
Pour la vie privée, oui.
En termes de données de test, etc., quand tu prouves, par exemple, à la CNIL, que personne ne peut remonter à la source de ton anonymisation parce que tu n'as même pas un opérateur qui a la trace de la clé et qui a l'algorithme central qui permet de retrouver les données initiales, oui, c'est un gros intérêt.
Oh, mais tu vois, par exemple, sur l'histoire des data versus metadata, le fait que les données soient chiffrées avec une clé que le serveur ne connaît pas, ça n'empêche pas d'inverser l'anonymat. Bah, tu vois, si tu as des enregistrements, je sais pas, mettons, tu fais ton calcul, tu cherches la liste des gens qui se sont appelés entre eux tel jour, entre 22h et 23h par exemple, tu vas tomber sur une liste avec 7 entrées, et ben tu pourras rapidement remonter à ta base de données centrale et chercher quel utilisateur a passé 7 coups de fil entre 22h et 23h et réverser l'anonymat. Ouais, ce que je veux dire, c'est que parmi les règles de base en crypto, c'est que parmi les choses qu'on a appris des années 90, c'est que la crypto ne sauvera pas le monde.
Oui, mais en fait, de ce que tu dis là, le problème, il n'est pas de la crypto. Le problème, il est qu'en faisant un recoupement, tu accèdes à d'autres données. Donc, ça n'a pas vraiment de rapport avec la crypto homomorphique. Je pense que dans ce cas-là, la crypto homomorphique est applicable. Maintenant, il faut voir si c'est une réalité. Moi, je ne connais pas plus que ça.
Bon, enfin, après, moi, j'ai bien aimé aussi le témoignage de Jean-Jacques Cuisquetter, puisque ce grand cryptologue belge a été victime de nombreuses attaques, il s'est pris Régine, etc. Donc voilà, il a un peu fait part de son expérience et de son sentiment sur le sujet.
Donc, quand tu dis il s'est pris Régine, qu'est-ce que tu veux dire?
Bon, donc il s'est pris un logiciel d'espionnage d'autorité extra-européenne, et c'était un logiciel qui était totalement silencieux et indétectable, mais comme par hasard, s'est mis en marche pour enregistrer ses activités lorsqu'il était à l'extérieur de chez lui, une fois lors d'une conférence, une fois lors d'une réunion qui était censée être confidentielle. Et donc, il a eu la confirmation plus tard. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir comment un grand cryptologue européen est espionné par des moyens sérieux, par un service étranger. Moi, j'ai trouvé que c'était un retour d'expérience vraiment intéressant.
Ouais, globalement, tous les intervenants de la journée étaient quand même de très bon niveau.
Hein. Ah oui, c'était très, très intéressant.
Aussi bien au niveau de la forme que du fond, toutes les conférences étaient bien. Après, moi, je discute sur le fond parce qu'il y a plein de conférences avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais la présentation qui en était faite était très bien.
Bah, avec lesquelles tu n'étais pas d'accord ?
Globalement, j'ai trouvé que justement, en particulier sur les histoires de vie privée, tout le monde s'accorde à dire il faut protéger la vie privée des gens, mais personne n'a commencé par définir ce que c'était que la vie privée.
Oui, mais je veux dire, là tu reprends les choses à zéro, ça a déjà été défini, il y a aussi il y a d'autres conférences spécialisées dans le domaine de la vie privée. Donc là, ça va trop loin, mais
Moi, j'habite en Suisse. Il y a une assistante parlementaire qui faisait des selfies d'elle à poil dans son bureau au Parlement suisse, et les photos sont retrouvées sur Internet, etc. Ça a fait tout un scandale. Quand elles ont été publiées dans la presse américaine, ils ont flouté ses seins. Et quand elles ont été publiées dans la presse suisse, ils ont flouté son visage. Donc tu vois, déjà, entre deux pays d'Occident, qui partagent les mêmes valeurs, etc., ils n'ont pas la même notion de vie privée.
Non, mais il y a une notion de vie privée qui est maintenant commune à l'ensemble de l'Europe au travers du G29. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement entendu. Enfin, donc, pour répondre à la question initiale qui était « Quelles sont les conférences que j'ai trouvées bien ?» elles étaient toutes bien, mais voilà, j'en ai cité quelques-unes.
Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, qu'elles étaient toutes bien, et enfin dans le sens où elles insistaient toutes à la réflexion et au débat. Et Johan, toi, tu poses des questions, mais toi qui as assisté à la conférence, qu'est-ce que tu as à en dire ?
Moi, j'ai bien aimé la conférence d'introduction, pendant laquelle Jean-Louis Devine nous rappelait qu'on avait hésité entre deux systèmes et qu'on n'était pas parti sur un système qui consistait à contrôler les clés de chiffrement de manière globale.
Ce qu'il voulait dire, c'est que lui, il a essayé de pousser, à l'époque où il était responsable à la DCCC, il a essayé de pousser l'idée des tiers de confiance. Et qu'avec les tiers de confiance, on aurait pu avoir à la fois la vie privée et la capacité à répondre aux besoins de la justice et des services qui ont besoin d'écouter des communications. Et que malheureusement, en fait, on a tué ces tiers de confiance, et que c'est pas le système qui existe aujourd'hui. Voilà.
Donc c'était très intéressant, il faisait une rétrospective avec beaucoup d'humour. La conférence de Solange Guernaouti aussi était très intéressante. Elle a mis des choses en lumière qui paraissent évidentes, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Elle disait par exemple que ce qui risquait d'être de plus en plus impactant, c'était pas forcément le vol de données, mais l'altération des données. Et c'est vrai que par exemple, quand tu penses à des compromissions comme Sony, etc., si en plus les attaquants se mettent à modifier les données qu'ils ont extorquées, ça peut donner des choses vraiment terribles, je pense.
Genre trafiquer des feuilles Excel pour ajouter des lignes.
Par exemple. c'est pas nouveau.
Est-ce qu'elle a donné des exemples là-dessus, des cas concrets qui se seraient passés où il y aurait eu des remontées ?
Non.
Et vous en connaissez ? Vous avez des cas comme ça qui sont vraiment des cas pernicieux et qui permettent... du piratage industriel, là, c'est vraiment pour voler des dossiers, c'est vraiment pour gagner des marchés, des choses comme ça. Vous avez des retours les uns les autres là-dessus ? Est-ce que c'est la vraie vie ?
Là, comme ça, à chaud, ne serait-ce qu'au travers du panorama de la cybercriminalité du CLUSIF, j'ai pas de cas qui me reviennent en tête dans la sphère des cas connus.
La conférence de Jean-Luc Molinaire aussi était intéressante.
Ah oui, moi j'ai énormément aimé sa conférence. Hein. Bon, il a dit plein de choses rigolotes. Hein. Il a quand même remis, il a repositionné la réalité de ce que subissait un opérateur de télécommunications dans le système actuel. Donc, notamment en rappelant que la justice faisait 750 000 requêtes par an auprès des opérateurs, que Adopi en faisait 1,5 million par an. Donc finalement, Adopi devait avoir une base de données d'adresses IP la plus importante de France. Il a cité des cas assez... Il a donné la plus grosse caricature qu'il a vu passer. C'est l'officier de police judiciaire qui demande toutes les métadonnées de la totalité des téléphones dans un rayon de 5 km à l'occasion d'un vol de vélo. Donc voilà, il a montré que parfois les services d'enquête vont à la facilité en faisant des réquisitions judiciaires auprès des opérateurs qui sont un peu gros. Ce qu'il a aussi dit qui était très intéressant, c'est que en France, les gens qui sont sollicités par la justice répondent systématiquement à toutes les requêtes. Et que c'est pas le cas de tous les acteurs qui, eux, s'abrogent le droit de juger la pertinence de la réquisition et ne répondent pas systématiquement à toutes les réquisitions. Il l'a dit, et il n'est pas le premier à le montrer, donc il l'a rappelé, et c'est intéressant. De toute façon, c'était aussi le discours de l'avocate hein, qui nous rappelait à quel point, eh bien, dès l'instant que on travaille avec une société américaine, la législation américaine s'appliquait indépendamment du fait qu'on soit sur le territoire américain.
Mais alors ça, encore une fois, c'est la Convention de Budapest, c'est ça, qui régit les demandes d'assistance internationale. Et il y a quelque chose qui est très clair là-dedans, c'est que pour émettre une requête vers un pays étranger, il faut que l'objet de ta requête soit un crime dans le pays de destination et pas le pays d'origine. Ce qui fait que, par exemple, toutes les demandes de la France en direction de la Suisse dans des cas d'évasion fiscale sont rejetées par la Suisse parce que la fraude fiscale n'est pas un crime en Suisse, mais un délit. Et donc, de ce point de vue-là, ils ne sont pas tenus par la Convention internationale de répondre aux requêtes. Donc, si tu as quelqu'un qui est dans un pays de l'Est ou quelconque, dans lequel le piratage n'est pas un crime, tu n'es pas tenu par les conventions internationales de donner suite aux demandes de la justice française. Enfin, je veux dire, on veut souvent que on voudrait que la justice française s'applique partout, mais bon. Donc on dirait que c'est la justice américaine qui s'applique partout.
C'est le cas. Aujourd'hui, c'est la justice américaine qui s'applique partout.
Mais tu vois l'idée, quoi. C'est qu'il y a quand même une réglementation très précise et que personne n'est au-dessus des lois. Enfin, simplement.
Il a dit autre chose qui était très intéressant, Jean-Luc Molinaire. Il a rappelé que il avait dans les textes, il a montré des textes dans lesquels on faisait état de l'aspect démocratique du pays. Donc il a bien expliqué que une société mondiale, elle doit faire du business partout et qu'elle va pas s'amuser à vérifier que les pays sont démocratiques. Mais il a dit, mais moi j'ai cherché où était la définition de la démocratie et il a eu du mal à trouver. Il l'a trouvé dans The Economist qui donne une définition de la démocratie et un classement des pays du monde, des pays et territoires, et qui dénombre, et ça je ne connaissais pas ce classement donc j'ai trouvé ça rigolo, qui dénombre 24 démocraties. Et sur ces 24 démocraties, c'est quand même très peu, hein, 24, eh bien, sachez que, incroyable, la France fait partie des 24. Mais la France est 23e sur 24, le 24e étant le Costa Rica. Donc ça, c'était une analyse qui datait avant 13 novembre. Et donc, à chacun de réfléchir. Est-ce que dans le prochain classement de The Economist, la France sera encore dans les démocraties. Bon, En tout cas, il a expliqué qu'il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas travailler avec les autres pays qui ne sont pas dans, dans les 24 démocraties. Il y a plus de 200 pays et territoires sur la planète et il n'y a pas le choix. On fait du business partout. C'est le business.
Et Jeff, t'as pensé quoi de la journée, toi ?
Bah, journée intéressante, ouais, conf de qualité. Effectivement, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'intervention de Jean-Luc Molinaire, c'est notamment des points comme il constatait que les bugs oublient tout ce qui est équipement télécom était en croissance et que c'était assez suspect, hein, en fait. La qualité n'est pas encore au rendez-vous. Est-ce bien normal ? C'est très suspect et que grosso modo en fait par rapport à tout ce qui est équipement que les télécoms, les opérateurs télécoms sont mettent en œuvre dans le cadre de leurs services et infrastructures, et ce sont des technologies étrangères que l'Europe s'est complètement fait marginaliser dans le domaine et donc on est complètement dépendant de technologies qui ne sont plus les nôtres. J'ai trouvé que c'était un point aussi assez particulier et un peu structurant. Et puis aussi un point où il disait que le monde numérique, il y a beaucoup de techniques de protection contre de la vie privée, mais qu'on oublie assez souvent que les techniques d'analyse en big data et notamment tout ce qui est technique de fingerprinting au niveau de navigateur Internet permettaient d'identifier de façon assez unique les navigateurs, ils prenaient un peu l'exemple que si mes notes sont bonnes, qu'on avait pour 2^33 habitants dans le monde, alors que un navigateur fait fuiter 22 bits. Hein. Donc tu te dis waouh, le reste étant collectable. Donc on se dit tiens, même en faisant un peu attention, les outils qu'on a à notre disposition sont sont pas aussi fiables que ça. Et il avait fait visiblement les tests avec une navigation via Tails et donc le réseau Tor, et qui faisait fuiter 11 bits. Hein. Donc on se disait que pour pas être pisté, ça va être particulièrement compliqué. Et je mettrais ça en relation avec l'une des interventions de j'ai trouvé assez noir. Bien que réaliste, hein, de Solange Gardnaouti, sur le fait que, pour elle, son intervention était très orientée. Nous sommes surveillés par tout le monde. Les GAFA nous surveillent. Hein, les GAFA sont au service, à la botte des gouvernements. D'un côté, on peut se dire oui, effectivement.
Ils sont à la botte d'un seul gouvernement.
Peut-être. Après, au-delà de ça, en fait, j'ai trouvé son constat et son analyse avec du recul assez intéressante, qui faisait du sens, mais sans trop apporter de solution, parce qu'à la fin, on a envie de se dire « Ouais, bon, et alors, crier au loup et dire que le monde est noir, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. » Et c'est peut-être aussi un petit peu le constat que je retourne un peu de cette conférence, hein. C'est que les questions étaient bonnes, bonnes réflexions, des interventions de qualité, mais à la base, on en ressort, on se dit bon, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est ça en fait qui manquait dans cette conférence, hein. Pas assez des bonnes questions, mais pas assez de solutions ou de pistes qui ressortaient.
Mais non, mais c'est tout à fait normal. Là, tu as une génération qui est typiquement la mienne. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas, j'ai passé les 50 ans. Et donc, tu avais une génération qui était la mienne et au-delà, voire à la retraite, qui s'exprimait. Et qu'est-ce que cette génération faisait quelque part le constat de son échec ? Mais c'est aux auditeurs, à la génération suivante, à se lever et à réaliser qu'on va complètement dans le mur. Que la société va dans le mur et qu'il faut absolument trouver des solutions. Maintenant, les solutions sont possibles.
Et ça, ce que
tu
es justement en train de dire, Hervé, je te coupe, excuse-moi, mais ce que tu es en train de dire là a été noté par des personnes de la Quadrature du Net, hein, qui faisaient le constat et qui sont intervenus et qui ont dit « Mais là, vous nous faites des constats, mais que faisons-nous maintenant ?» Et ce n'est pas aux générations de faire un constat d'insuffisance, de carence sur certains points, n'est pas ce qu'on attend. Et il ne faut pas laisser la problématique aux générations futures de régler ces problèmes, et c'est maintenant qu'il faut les adresser. Et ça n'a pas été fait.
Ben oui, mais moi, je me sens au cœur du sujet. Je veux dire, il y a un moment donné où tu te rends compte que tu as échoué et que et j'assume pleinement l'échec de ma génération.
L'échec de la sécurité, tu veux dire ?
Il y a l'échec de la sécurité, mais là, en l'occurrence, on est dans l'échec de la vie privée et l'échec de la liberté individuelle. On est pire que 1984.
Moi, ça m'interroge votre journée parce que vous avez presque réussi à me miner le moral alors qu'apparemment les conférences étaient bonnes, que vous êtes même ressorti enchanté des questions qui se sont posées. Est-ce qu'une conférence, c'est un endroit, ou en tout cas, est-ce que celle-ci, c'est un endroit où on apporte des solutions ou est-ce que c'est plutôt un endroit où on pose des questions ? Quand je regarde le descriptif qui est donné, chaque présentation, c'était quasiment des questions. Donc, est-ce que les intervenants devaient répondre à ces questions ou est-ce que, finalement, c'était la question qu'ils posaient à travers toute leur présentation ?
Ouais, ah, ils montraient surtout que, de toute leur carrière, ils n'avaient pas su faire passer ou apporter les bonnes réponses. Hein.
Dans la salle, il y avait quand même des gens intéressants. Il y avait un attaché d'un parlementaire européen, il y avait les gens de la Quadrature du Net qui, effectivement, étaient un peu plus militants. Enfin, je pense que il y avait quand même des gens convaincus dans la salle qu'il fallait changer des choses et qui avaient le pouvoir de le faire. Par contre, ils se sont pas forcément levés pour monter sur l'estrade et expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. De toute façon, si tu veux faire des trucs importants, à grande échelle, de grande ampleur, finalement, tu travailles dans l'ombre. C'est le meilleur moyen d'assurer ton succès, quoi.
Parce que finalement, quand tu prends Google, quand ça a commencé entre Page et Brin, ils ont commencé dans les labos de Stanford, et puis personne ne croyait qu'on pouvait aspirer le net, finalement ils l'ont fait. Blablacar, le mec s'est dit moi j'aime bien le covoiturage, je vais monter un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est la plus importante levée de fonds en France pour une start-up. Oui, ça part de rien, ça part d'une folie, et puis ça se fait. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens qui ont du recul, hein, un peu comme Hervé, qui nous donne du recul à chaque fois. C'est aussi important qu'il y ait des gens qui puissent travailler sur le sujet et apporter parfois des réponses qu'on n'attendrait même pas, puisque Google n'était pas forcément attendu. Je pense que Yahoo, AltaVista et consorts en sont les preuves vivantes. Blablacar, Uber n'étaient pas attendus, je pense que les taxis pourraient nous le dire. Peut-être que sur toutes ces questions posées, qui sont autour de la question de la vie privée, si j'ai bien écouté, bien compris ce que vous avez dit, essentiellement, peut-être que la solution viendra d'ailleurs. Je crois que c'est Nico qui a dit que la crypto, c'était pas la solution. Alors, pour protéger notre vie privée, dans les temps où nous sommes, que faut-il faire ?
Mais tu vois, ça c'est déjà un présupposé. Est-ce qu'on a besoin de protéger notre vie privée ? Est-ce qu'il faut investir des millions dans la crypto homomorphique et autres pour arriver à quel résultat à la fin ? Derrière, t'as un gouvernement qui va voter une loi comme quoi toutes les cryptos doivent être backdoorées, comme c'est le cas en Angleterre, où ils s'apprêtent à affaiblir considérablement la crypto, ou à dire que tout le monde doit être espionné. Enfin, je pense qu'il faut aller beaucoup plus profond dans le débat pour se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société ?
L'autre solution, ça peut être de dire aucune entreprise n'a le droit de garder de logs sur ses utilisateurs.
Les gouvernements sont les premiers à demander aux entreprises de conserver les logs de connexion en portail Wi-Fi pendant 6 mois, ensuite 1 an, ensuite 3 ans. Enfin.
Ouais, mais c'est pas pour le même but.
D'accord, mais soit tu conserves, soit tu conserves pas.
C'est le but qui compte. Hein. Quand tu commets un forfait, il faut toujours se demander à qui profite le crime.
Moi, au-delà de ça, au-delà des considérations techniques, là, chiffrement, pas chiffrement, qu'est-ce que la vie privée et compagnie, ce que j'en ai. Une des interventions, là, quelque chose que Jérémy Zimmermann a bien mis en avant, c'est que j'ai bien retenu, c'est que, en fait, il y a trop d'utilisateurs, ils se disent, tiens, il y a le petit cadenas en haut à gauche. Donc, c'est sécurisé. Il y a de plus en plus de personnes qui ne cherchent pas à comprendre comment les choses fonctionnent et de quelle façon. Et ça, c'est antiproductif. Et tout doit. Enfin, le côté esprit critique, avoir envie de connaître comment ça fonctionne, c'est peut-être le commencement du début.
L'intelligence, c'est la solution à tous les problèmes.
Bah.
Oui, mais Jeff.
Ouais, mais voilà, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah ouais, mais il y a le petit cadenas, donc c'est sécurisé. Et tu leur parles chiffrement, ils connaissent pas les basico-basiques. Et j'aurais envie tendance de dire, bah, putain, levez-vous et plongez-vous un peu dans le truc, c'est pas non plus très compliqué, hein.
Pendant 10 ans.
Le monde est curieux.
Pendant 10 ans, c'est un peu de curiosité. Non, mais pendant 10 ans, on a dit aux utilisateurs vérifier qu'il y a le cadenas. Tu peux pas dire maintenant, c'est complètement idiot de pas vérifier le cadenas.
Bah, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais actuellement, le cadenas, il est tellement surfait ou foireux ou backdoré que, bah, en fait, ça ne veut plus rien dire. Ouais, c'était vrai il y a peut-être 5-6 ans ou je sais pas combien de temps, quoi.
Transpose ça dans l'industrie automobile. Là, ils sortent plein de voitures électriques, etc. Moi, j'y connais rien du tout. La seule chose que je demande à cette foutue voiture, c'est qu'elle mène d'un point A à un point B. Et si tu m'as dit, faut que tu regardes qu'il n'y ait pas le petit voyant, ben moi, je vais regarder qu'il n'y ait pas le petit voyant. Et je veux surtout pas savoir si derrière, il y a un mécanisme de surprotection électrique, etc. Ça m'intéresse pas. J'achète un service. Le service, ça m'amène d'un point A à un point B. Les utilisateurs, ils achètent un service. Ils achètent du surf sécurisé. Point. Donc, c'est peut-être un peu dur pour les utilisateurs.
Ouais, le constat, il est dur, quoi. Parce que là, ça veut dire que tout le monde se laisse mener en bateau sans esprit critique, quoi. On en revient à l'esprit critique, hein, grosso modo. Hein. Est-ce que je prends le petit cadenas pour acquis, quoi? Et c'est un peu ça, parce que grosso modo, l'une des interventions où j'étais assez bluffé, c'était le monsieur de... attendez, je ressors mes notes... de l'APSIS, l'Association pour la promotion de la sécurité des systèmes d'information de santé.
Donc Vincent Trelli, dont la femme reçoit régulièrement tous les gadgets possibles et imaginables, a fait un magnifique exposé de l'ensemble des gadgets. Ce qui est aussi très intéressant de sa présentation, c'est qu'il a cité les hôpitaux dans lesquels il y a eu des incidents dus à de la cybercriminalité. Donc c'était bien sûr, c'est très intéressant, mais on retrouve ça dans beaucoup. Enfin, si tu allais à l'OVH Summit, qu'est-ce que te proposait notre ami Clabat? La possibilité de suivre sa température et donc son émotion depuis Internet. Et, enfin, tout le monde est complètement à fond. Et même moi, on m'avait offert, bon, je l'ai perdu, je m'excuse, mais on m'avait offert un Weezings, etc. Donc, et tout le monde rigolait en me voyant avec mon machin connecté, bon, que j'ai perdu. Hein, c'est involontaire, c'est à force de voyager, bon, on perd les trucs dans les hôtels. Mais c'est la vie moderne. Et cette vie moderne aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'est cette vie qu'on veut où notre température est en direct sur Internet et en temps réel ou pas?
Bon, si t'achètes un thermomètre, si les thermomètres recto connectés se vendent comme des petits pains, c'est ce que les gens veulent.
Mais là, bon, on est plus dans la sécurité des systèmes d'information ou la cybersécurité ou la conférence de l'ARCI. Comme le disait Nicolas, on est dans quel modèle de société on veut pour les générations futures. Bon, à ce compte-là, autant parler de la surpopulation.
Non, alors, mais attends, on peut rester dans la sécurité. En
fait, de l'arrêt des énergies fossiles, enfin bref. On peut élargir. Hein,
on va peut-être conclure sur cette conférence en disant qu'elle est ouverte. C'est-à-dire que si vous souhaitez assister à cette conférence, il n'est pas nécessaire d'être membre de l'association, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Tout à fait. D'accord. Et donc, on va vous inciter à y assister. L'année prochaine, c'est tous les ans, c'est ça, hein?
C'est tous les ans. Une année sur deux, c'est en province.
D'accord. Donc, Vlad vient de nous rejoindre. Salut, Vlad.
Bonjour.
Alors, la minute fail, c'est l'heure de la minute fail, mais c'est quoi la minute fail, Vlad?
Eh bien, c'est une minute qui décrit un incident ou un petit événement comme ça, et donc qui a été inauguré par Jean-Philippe durant l'émission enregistrée aux Assises de la Sécurité avec sa fameuse sauvegarde en MD5. Alors, en préambule, je tiens à préciser que le principe, c'est pas d'accabler les gens, mais plutôt de prendre un peu de recul avec humour, et puis de vous donner éventuellement quelques conseils. Voilà, donc je ne citerai aucun nom, mais malheureusement, tout est vrai. Donc, cette histoire se déroule dans un data center. Des intervenants avaient besoin de faire tenir un truc sur un mur et ont vissé une espèce de plaque en métal pour faire tenir ce truc. Donc jusqu'ici tout va bien. Le data center était complètement redondé, double arrivée électrique, double arrivée réseau, etc. Enfin voilà. Sauf que le problème, c'est que les vibrations de la climatisation de la salle ont lentement dévissé les vis de la plaque, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, la plaque en métal est tombée sur une des arrivées électriques du data center. Elle a raccordé deux phases, qui a créé une espèce d'arc électrique, qui a fait fondre la plaque, ce qui a créé un incendie, qui a coupé toute la salle et la moitié du data center, donc grosse panne. Et d'ailleurs, au passage, en fait, l'enquête a été particulièrement difficile, parce que comme la plaque avait fondu, il n'y avait aucune trace, et il a fallu plusieurs semaines pour comprendre ce qui s'était vraiment passé et l'origine de l'incendie. Donc, au final, tout était redondé. Malheureusement, personne n'avait pensé à utiliser des petits écrous auto-freinés ou de la colle à vis à 5 euros pour éviter le desserrage. Donc, la conclusion, c'est que tu as beau mettre un maximum de sécurité, tu oublies un tout petit élément et là, tout s'écroule.
Fail. Fail.
Merci, Vlad.
Fail.
Bon, bien, il est l'heure de nous quitter. Alors, non sans vous rappeler que le 15 décembre, nous serons à 19h au bar La Coloc, qui se trouve au 20 rue du Croissant à Paris. Ce sera l'afterwork de l'OSIR. Ce sera également l'occasion donc de retrouver une bonne partie de l'équipe de No Limites Sécu, ainsi que celle du comptoir Sécu. Donc, le 15 décembre, venez boire une bière avec nous au bar La Coloc, 20 rue du Croissant à Paris.
Et je tiens à préciser que la bière ne fait pas grossir et augmente la surface de caresse.
Merci pour cette précision. Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.